Jean-Noël Reynaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de Marie Brizard Wine and Spirits. On va parler avec vous de votre actualité, hein, et puis de votre stratégie, puisqu'il y a un nouveau plan pour Marie Brizard, puis d'un sujet qui peut être important pour vous, mais aussi pour les investisseurs, les actionnaires individuels, l'exercice de bons de souscription d'actions. Effectivement, il y a eu un certain nombre de changements chez Marie Brizard Wine and Spirits. En quoi c'est important que les actionnaires suivent cette question des bons de souscription d'actions pour vous?
La question des bons de souscription d'actions, en fait, vient à l'intérieur de la normalisation de notre groupe. Donc moi, je suis arrivé au poste de direction générale en mai 2014. Et durant l'année 2014, on a finalement reposé les fondements du groupe. On a établi une nouvelle stratégie, une nouvelle direction, qui est notre plan stratégique Big 2018, qui doit porter le groupe à environ 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et 15% d'EBITDA. Et on a commencé naturellement à mettre en place ce plan stratégique en 2015. Alors, on voit que tous les indicateurs sont au vert en 2015, comme on a pu le déclarer en matière de chiffre d'affaires au mois de décembre. Et on a finalement maintenant, début 2016, un plan stratégique qui se déroule comme prévu et un groupe qui est complètement normalisé. Alors, la normalisation, elle s'est faite aussi avec le changement de nom, puisque nous avons changé de nom, comme vous le savez, au mois de juillet 2015, puisque l'ancien groupe Belvédère est devenu donc Marie Brizard Wine and Spirits. Et en matière de normalisation, nous avons voulu finalement simplifier les différentes souches de BSA qui existaient. Donc, on avait jusqu'à présent cinq souches de BSA et on a fait une offre publique d'échange pour n'en faire plus qu'une seule, en sachant que effectivement, si les porteurs de BSA exercent ces BSA d'ici la fin du mois de mars donc 2016, ils obtiennent un nouveau BSA, c'est un petit peu compliqué, mais ils obtiennent un nouveau BSA 2023 pour obtenir une action à 25 euros en 2023, en sachant que ce nouveau BSA a une valorisation entre 3 et 4 euros actuellement. Donc c'est une bonne opération pour les porteurs de BSA, bien évidemment, puisque au vu du prix de l'action actuellement et de la valorisation du BSA 2023, c'est une bonne opération financière.
Est-ce que vous diriez qu'il risque de l'oublier? C'est-à-dire, parce que normalement, un actionnaire, quand il gère bien son portefeuille, il a des actions, il a des titres, il peut avoir des bons de souscription d'actions. Et logiquement, il devrait le faire. Qu'est-ce qui peut l'empêcher? C'est parce que vous parliez de cette historique, il y a des
Non,
questions
je pense
sur.
que c'est principalement un problème de valorisation du titre qui est à peu près au même niveau que. Donc, est à environ 20 euros, qui est le prix d'exercice des BSA. Donc, il faut toujours garder à l'esprit, effectivement, que l'exercice de ce BSA avant le 31 mars vous permet d'obtenir un nouveau BSA 2023 qui lui-même vaut 3 à 4 euros. Donc la somme en fait du prix d'action et des 3 à 4 euros fait que c'est une opération intéressante pour l'investisseur. Et puis naturellement, c'est une opération intéressante pour l'entreprise. Pourquoi? Parce que effectivement, si l'intégralité de ces BSA sont exercés, c'est entre 0 et 50 millions d'euros de cash qui vont permettre de passer à la prochaine étape de la normalisation de notre groupe. Alors, nos actionnaires de référence, que sont le groupe marocain Diana Holding ou le groupe La Martiniquaise Bardinet en France, qui ont respectivement 14 et 11% du capital et qui sont aussi détenteurs de BSA, vont exercer en grande partie leur BSA, ce qui est à la fois une preuve de leur confiance dans le management et dans le déploiement de notre stratégie. Et puis, effectivement, ça prouve que c'est une bonne opération financière par ailleurs.
Justement, quand on connaît l'historique de la société, on sait que ça a souvent été un titre spéculatif pour de bonnes et de mauvaises raisons. L'actionnariat actuel, est-ce qu'il est stabilisé ou pas?
L'actionnariat actuel est stabilisé dans le sens où nous avons trois investisseurs, on va dire long terme industriels, que sont donc le groupe Diana Holding, le groupe La Martiniquaise Bardinet et le groupe Castel, qui ensemble ont à peu près 30% du capital. Vous avez des fonds d'investissement long terme qui effectivement sont rentrés au capital sur les 18 derniers mois. Et puis ensuite, vous avez quand même une partie retail de petits porteurs à hauteur de quasiment 50%.
De votre point de vue, justement, sur la mise en place de la stratégie, quand on regarde les groupes identiques aux vôtres, de taille plus importante, on voit que ça bouge, il y a des marchés sur lesquels c'est plus difficile. Vous avez aujourd'hui des priorités sur certaines de vos marques?
Alors, tout d'abord, on est avec un business model qui est un modèle de business qui est fondamentalement différent de nos concurrents, à savoir que nous sommes positionnés comme un acteur régional et qui a des implantations dans différentes zones géographiques que sont l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, la France, l'Espagne ou les États-Unis. Et nous sommes positionnés au cœur du marché des vins et spiritueux. Donc, nous ne sommes pas dans une logique de premiumisation. En revanche, on voit que c'est un segment qui fonctionne très bien puisque c'est le segment qui a le plus contribué à la croissance de pays comme la France. Il faut savoir que 90% quasiment de la croissance du marché des vins et spiritueux sur les 5 dernières années s'est fait sur ce segment, on va dire mainstream, value for money. Et on voit effectivement, et ce sont des données publiques, puisque nous avons fait notre déclaration de chiffre d'affaires pour l'année 2015, que c'est un positionnement qui fonctionne très bien. On le voit par exemple sur le marché français, où notre marque William Peel, qui est le leader du scotch en France, en sachant que le scotch whisky est la plus grosse catégorie de spiritueux en France, est une marque qui fonctionne très bien. Elle a progressé l'année dernière de 5% sur un marché qui était en régression de 1,5%, donc on gagne des parts de marché. De la même manière, avec notre vodka en France, Sobieski, on a introduit cette marque finalement il y a à peine 5 ans et on est devenu le deuxième acteur de la vodka en France. Donc c'est un positionnement qui est en résonance avec les attentes des consommateurs et finalement c'est ce qui est le plus important, c'est qu'est-ce que le consommateur veut? Le consommateur, en bout de course, il veut un bon produit au bon prix. Et c'est ce finalement qu'on lui donne et c'est ce qui fait d'ailleurs que la croissance est là et est au rendez-vous et que notre plan stratégique fonctionne.
Parce que c'est vrai qu'on entend les grands acteurs, ils ne parlent que de premium partout sur les différents segments, que ce soit la vodka, le whisky et d'autres alcools.
Alors effectivement, on entend beaucoup de choses sur la premiumisation. La réalité du marché, elle est tout autre. Elle est tout autre. En France notamment, il est clair que si vous voulez, c'est le segment finalement cœur de marché qui fonctionne le mieux. Et j'en veux pour preuve finalement nos trois marques phares sur le marché français que sont William Peel. Il faut savoir que William Peel à lui seul, c'est presque 7% de la consommation de spiritueux en France. C'est 25% de parts de marché sur le marché du scotch qui lui-même représente à peu près 30% du marché français. Donc vous prenez les chiffres Nielsen, William Peel est la seule marque, c'est la seule marque, tout produit de grande consommation confondu, à avoir deux références parmi les 10 références les plus vendues en France. Donc vous avez une référence qui est une référence d'un soft drink connu d'Atlanta, vous avez des pâtes à tartiner et tout FMCG confondu, dans les 10 références les plus vendues, la seule marque qui a deux références, c'est William Peel. Donc on est vraiment avec une star sur le marché français, et c'est une star pourquoi? Parce que effectivement, on est en résonance avec les attentes des consommateurs.
Oui, parce qu'on a l'impression que si on allait ensemble dans la rue et qu'on demandait William Peel, je ne suis pas sûr qu'il y ait cette connaissance.
Non, et c'est ce qui est d'ailleurs un levier pour nous, puisque finalement on est arrivé à cette force, à cette position sur le marché, finalement sans avoir activé les campagnes publicitaires, la partie marketing, parce que bon, pour des raisons historiques et financières, nous n'avions pas les moyens effectivement de pouvoir développer nos marques avec toute la batterie d'outils habituels. En revanche, maintenant on est une société normalisée, donc on a les moyens effectivement de nos ambitions et pour la première fois fin 2015 nous avons fait une première campagne de publicité sur William Peel et qui devrait naturellement continuer à porter ses fruits sur le futur.
Le mot de la fin justement, la situation financière de Maribrisa Wine Spirits, donc elle est en 2016, on en est où pour vous?
Donc encore une fois on est avec un plan stratégique qui est clair, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, 15% d'EBITDA en 2018, on a donné un guidance pour 2015 et on déclarera nos résultats à la fin du mois d'avril. On sera à deux fois l'EBITDA 2014, soit environ 10 millions d'euros. On est avec une trésorerie positive nette à fin juin, ce qui sera le cas effectivement aussi fin décembre. Et donc on est dans le déroulé attendu du plan BIC 2018.
Merci Jean-Noël Reynaud.
Merci à vous.